bonjour et bienvenue. Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Aujourd'hui, c'est le troisième jeudi du mois. Et donc, c'est une nouvelle case qui commence pour moi et pour Radio Libertaire. Nous allons parler du nucléaire. Du nucléaire et son monde. Alors, pourquoi le nucléaire ? Bah, d'abord, parce que nous sommes en France. Et oui, malheureusement, nous sommes le pays le plus nucléarisé du monde. Il y a trois grandes puissances nucléaires dans le monde. Les US, la France et la Chine. Et il ne vous aura pas échappé que la France n'est pas la troisième puissance démographique du monde. Et oui, nous avons presque un dixième des réacteurs mondiaux sur notre petit territoire. Nous allons donc essayer de comprendre pourquoi la France est dans cette situation si particulière d'avoir autant de réacteurs nucléaires. Pourquoi le nucléaire et son monde ? Parce qu'il me semble que le nucléaire n'est pas une technique à part, enfin n'est pas une technique comme les autres, justement, elle est à part, car elle amène avec elle tout un monde. Déjà, elle amène un monde réel, concret, presque géographique. Si vous allez sur le site d'EDF et que vous regardez la page sur le nucléaire, vous verrez les centrales, les réacteurs. Les 18 centrales qui regroupent 56 réacteurs. Mais le nucléaire, ça n'est pas que un réacteur ou une centrale. C'est beaucoup d'autres choses. Si vous allez sur le site du réseau Sortir du Nucléaire, vous verrez un peu plus précisément la réalité de ce monde physique du nucléaire. Vous verrez par exemple les sites militaires. Vous verrez aussi les résidus d'exploitation minière qu'il y a encore en France. Vous verrez les usines de fabrication de combustible. Vous verrez les déchets. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur tout le territoire. Mais le nucléaire, c'est aussi des transports, parce que ces combustibles, ils sont fabriqués à un endroit et consommés à un autre. Il faut donc les transporter. Et tous les jours, il y a des convois nucléaires, que ce soit de combustible, que ce soit de retraitement, que ce soit de MOX, on en parlera dans un épisode, mais aussi des déchets étrangers qui viennent en France, à La Hague, pour se faire retraiter. Donc ça, c'est déjà une partie, j'irais, du monde concret du nucléaire. Mais il n'y a pas que ce monde concret, car le nucléaire fonctionne avec de l'uranium et que cet uranium, on n'en a plus en France. Il faut donc le faire venir de l'étranger. Il y a donc une question aussi géopolitique, parce que cet uranium, il faut savoir où il est extrait, dans quelles conditions, et que par exemple, énormément de l'uranium qui est consommé en France transite par la Russie, et ça sera aussi un autre épisode que nous aurons cette année. Toute cette partie-là, c'est le nucléaire concret. Mais il n'y a pas que le nucléaire concret. Je pourrais aussi parler des travailleurs et des travailleuses, souvent en intérim, qui sont mal suivis médicalement. Donc ça, on essaiera de faire un épisode là-dessus aussi. Mais si on sort du monde concret du nucléaire, il faut aller vers un monde parfois plus politique. Avoir des centrales nucléaires, c'est avoir un pays centralisé. C'est avoir une puissance étatique qui fait des choix. Et c'est donc aussi, quelque part, philosophiquement, avoir un état technocratique. Il y a des gens dans le monde nucléaire qui savent mieux que nous. Le nucléaire fait assez mauvais ménage avec la démocratie. Et puis, bien sûr, le nucléaire, en France, mais comme dans tous les pays où il y a du nucléaire, est très très lié à la militarisation et à la bombe nucléaire. Donc, être pacifiste et pro-nucléaire, il me semble que c'est une contradiction. Ou en tout cas, avoir du nucléaire chez nous impose forcément de réfléchir à la place militaire de ce nucléaire. Et puis, il y a aussi un monde philosophique. Car le nucléaire se déclare de la science, se réclame de la science. Et tous les scientifiques pro-nucléaires se targuent d'être surtout des scientifiques. Et moi, il me semble que dans le nucléaire, la science se dévoie. Parce que, par exemple, quand il y a des problèmes dans le nucléaire, ce ne sont pas des manières de remettre en question cette industrie et ce choix technique, mais ça permet des fois juste de continuer en avant, une sorte de fuite en avant, sans poser vraiment la question de la science. On a besoin de science, on a besoin d'experts indépendants, des lobbies, qui posent des questions sur quelle est la bonne épaisseur de l'acier dans la cuve d'un réacteur, quels sont les problèmes de sécurité qui se posent dans les EPR. Enfin, on a besoin d'études. Mais on a surtout besoin de contradictions. On a besoin d'une science contradictoire avec des gens qui vont débattre sur l'épaisseur, par exemple, de la cuve. Ce débat-là, il me semble qu'on est en train de le perdre. Et par exemple, il y a un projet de loi, je crois, qui a été voté à l'Assemblée hier ou avant-hier, si je ne m'abuse, pour fusionner l'ASN, l'Autorité de Sûreté Nucléaire, et l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire, qui était justement une sorte de laboratoire qu'on voulait indépendant sur ces questions-là. Là, on a l'impression que le politique reprend tout ça sous sa coupe pour qu'il n'y ait plus de contradictions. Les autres mondes qui sont créés par le nucléaire, il y a un monde technique, bien sûr. Le nucléaire est une question technique avec des sujets très complexes parce que c'est une solution difficile à mettre en œuvre. Elle est assez simple dans les faits puisque ce qu'on cherche à faire, c'est faire bouillir de l'eau pour faire tourner des turbines, pour faire de l'électricité. Et donc on a réussi à inventer la manière la plus complexe de faire bouillir de l'eau, avec en plus le risque que ça prend et les déchets que ça génère. Donc c'est une question technique. Il faut avoir une certaine connaissance de la technique du nucléaire pour comprendre ce qui s'y joue, pour pouvoir discuter et débattre publiquement et dans une démocratie. Mais il ne faut pas se laisser enfermer dans un débat technique. Parce que dans ce cas-là, on revient dans le monde politique que je décrivais tout à l'heure, qui est donc un monde technocratique où seuls les gens qui ont fait Bac plus 12 peuvent donner leur avis sur la question du nucléaire. Et ça, il me semble que c'est dangereux. Donc dans cette émission, Le nucléaire et son monde, on abordera bien sûr des questions techniques pour que chacun et chacune puisse essayer de se faire une opinion sur cette solution, sur ce mix énergétique, et qu'on puisse chacun et chacune, potentiellement dans des débats à Noël par exemple, avec son tonton raciste, pouvoir discuter aussi de la question nucléaire. Mais il y a un monde sémantique aussi dans le nucléaire. Il y a beaucoup de mots qui voyagent avec l'industrie nucléaire, qui sont souvent des mots qu'il me semble être un peu piégeux. Souvent, on entend le cycle du carburant, par exemple. Le cycle du carburant donne l'idée que, eh bien, on va pouvoir rentrer dans un cercle vertueux de retraités, peut-être même d'avoir du carburant infini. Enfin voilà, cette idée du cycle me paraît vraiment piégeuse parce que quand on regarde les faits, il n'y a pas vraiment de cycle. Il y a surtout une ligne droite qui part des mines d'uranium au Niger, par exemple, pour finir dans un trou qu'on veut creuser à Cigéo pour enfouir tous les déchets de l'industrie nucléaire depuis son origine. Un autre mot qui me semble assez intéressant à questionner, c'est le mot de décontamination. On ne décontamine jamais rien. La radioactivité a ceci de particulier et d'abyssal qu'elle ne disparaît pas. Et donc quand on parle de décontamination, il faudrait plutôt parler de déplacement de la contamination. Quand on vient décontaminer un fût, avec de l'eau par exemple, ou de la vapeur d'eau, on va effectivement nettoyer le fût de sa contamination et de sa radioactivité, mais ce qu'on a créé, c'est de l'eau contaminée. Donc on a juste déplacé la contamination. Donc le mot décontamination, pour moi, il n'existe même pas en fait. Et pourtant, c'est un mot qu'on voit dans beaucoup de documents officiels d'EDF, d'Orano, enfin, de tous les acteurs de ce monde-là. Et puis une dernière chose que je voudrais aborder avant de commencer réellement cette émission, en partageant avec vous une interview, c'est ce monde fantasmagorique du nucléaire, qui est peut-être la partie qui est la plus intéressante à mon sens, c'est de savoir comment cette technique si dangereuse, si mal adaptée à nos besoins énergétiques, a pu, comme ça, prendre autant de place en France et dans beaucoup de pays occidentaux. On imagine souvent que le nucléaire, c'est le fleuron de l'industrie française. Un fleuron qui essaye, depuis maintenant de nombreuses années, de finir un réacteur, l'EPR, qui peut-être ne marchera jamais à cause de problèmes techniques, de contrefaçons, des problèmes d'argent. Enfin, la liste est longue, on fera de nombreux épisodes sur l'EPR, qui malheureusement est une série à saison infinie, j'ai l'impression. Mais la question centrale, elle est aussi sur le rayonnement de la France. Cette expression, c'est une expression de Gabrielle Hecht, qui est une historienne américaine, que je rêve d'interroger un jour, qui a fait un livre qui s'appelle « Le rayonnement de la France », Et d'ailleurs, on en parlera, je pense, dans l'épisode qu'on va écouter aujourd'hui, mais sa théorie est assez simple. La France a retrouvé un rayonnement sur la scène internationale grâce à la bombe atomique. Et donc, attaquer le nucléaire en France, c'est attaquer la France, c'est attaquer son rayonnement en tant que puissance, fantasmée, je pense. Mais en tout cas, voilà quelque chose d'important à avoir en tête pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le nucléaire et la place du nucléaire en France. Comment va se passer cette émission, au moins je pense pendant la première année? Je vais me servir d'un podcast que j'ai déjà réalisé, qui a commencé en mars 2021, qui s'appelle « Un déjeuner chez Bernard ». Bernard, c'est Bernard Laponche, qui est un physicien nucléaire, qui a travaillé au CEA, donc au Commissariat à l'énergie atomique, pendant très longtemps, et qui, en mai 68, se rend compte de comment est implémentée les équations nucléaires sur lesquelles il travaille, et il découvre l'industrie nucléaire et la manière dont, dont cette industrie traite, par exemple, ses salariés. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Bernard Laponche, il y a une émission dans Trou Noir du 27 juin 2022, donc qui est passée sur l'antenne de Radio Libertaire. Je vous encourage à écouter cette émission, parce que c'est, la vie de Bernard est d'abord très longue, mais surtout elle est vraiment passionnante. Donc ce projet de parler du nucléaire est d'abord parti de cette rencontre avec Bernard, et aujourd'hui je vais vous passer un des épisodes que j'ai réalisé avec Bernard, où on revient sur justement l'origine de la nucléarisation de la France, c'est-à-dire du choix du tout nucléaire, comme on l'a dit en France politiquement. Donc c'est le plan Messmer dans les années 70. Voilà exactement l'endroit où nous nous trouvons. Je suis chez Bernard et je viens avec lui parler de cette question du nucléaire. En quelle année? Je n'en sais rien. C'est pour ça que je suis venu, pour parler du fameux plan Messmer. On vient de manger un petit pain au chocolat, ça sera donc pain au chocolat et Messmer. Quel est donc ce plan Messmer, mon cher Bernard?
Ah, il faut faire un peu d'histoire pour arriver à comprendre cette question du plan Messmer. Très rapidement, bon, à partir de 1945 avec le général de Gaulle et la création qui a créé le Commissariat à l'énergie atomique, la France s'est lancée très officiellement sur le développement de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins militaires et à des fins pacifiques. Le militaire, le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, a été confié à Frédéric Joliot-Curie, qui était un grand physicien, qui avait d'ailleurs découvert beaucoup de choses, et en particulier concernant la fission de l'atome et la possibilité de réussir une réaction en chaîne. Et donc il avait même pris des brevets à la fois sur la possibilité d'avoir des réacteurs pour la production d'énergie et d'électricité, et même la bombe. Et il se trouve qu'à la fin de la guerre, après cette création, Frédéric Joliot-Curie s'est opposé aux applications militaires, il était contre le développement de la bombe avec l'appel de Stockholm, etc. Et donc il a été mis de côté, alors qu'il avait démarré, construit avec ses collègues, la première pile qui était, le premier réacteur nucléaire français qui était la pile Zoé, qui était dans le système avec l'eau lourde. Il a été évincé et après le paquet a été mis sur les applications militaires, qui ont abouti à la construction de petits réacteurs à Marcoule, G1-G2-G3, de la filière, la même que la premier réacteur qui avait démarré en 1942 aux États-Unis, la filière uranium naturel graphite gaz, c'est-à-dire que le combustible c'est de l'uranium naturel qu'on trouvait en France, le graphite, bon, c'est charbon, on peut en trouver assez facilement, et le gaz c'était du gaz carbonique. Donc on a pu faire fonctionner ces réacteurs, et après on a retraité ces combustibles irradiés de ces réacteurs pour produire du plutonium, et ce qui permettait de développer la bombe atomique. Alors, en parallèle, les études sur le nucléaire civil se sont poursuivies, et en particulier avec la même filière. Et donc, dans les années 60, on a développé les premiers réacteurs à uranium naturel graphite gaz pour la production d'électricité. Et ça a été des réacteurs dans les centrales de Chinon, trois réacteurs, Chinon 1, Chinon 2, Chinon 3, Saint-Laurent 1 et Saint-Laurent 2, et Bugey 1. Donc six réacteurs qui ont été construits dans les années 60 et qui constituaient ce qu'on a appelé la filière uranium graphique, mais aussi la filière française et où c'est la filière de Gaulle, parce que c'est de Gaulle qui avait donc poussé à ce développement. Et on arrive à la fin des années 60 où ce programme de cette filière, de ces réacteurs doit se continuer, et en particulier avec la construction de deux réacteurs à Fessenheim. On est en 69, De Gaulle perd son référendum, démissionne et meurt peu de temps après, et est donc remplacé par un gouvernement, bon, Pompidou président, et personnage important, le Giscard d'Estaing. Et là, il y a une offensive très intéressante, si je puis dire, de changer ce programme nucléaire, d'arrêter la construction de réacteurs à uranium naturel graphite gaz, et de choisir les filières, ce qu'on appelle américaines, c'est-à-dire les filières à uranium enrichi et eau, soit l'eau sous pression, qui est la filière portée essentiellement par Westinghouse aux États-Unis, soit l'eau bouillante, porté par General Electric aux États-Unis. Alors, il y avait déjà eu la construction d'un petit réacteur de 250 MW à chaud PWR, c'est-à-dire uranium enrichi et eau sous pression, mais c'était rediscuté donc en 69-70 sur le choix de ces réacteurs. Ce choix était très poussé par EDF et son directeur général, Marcel Boiteux en particulier. Pour des raisons mises en avant, c'était de se rendre compte que la filière graphite gaz n'avait pas beaucoup de futur, disons, au niveau international, alors que les filières américaines se développaient énormément un peu partout dans le monde pendant les années 60. Donc, il y avait l'idée de se raccrocher aux vainqueurs. On peut dire ça comme ça. D'autre part, l'EDF était fatigué, disons, de la maîtrise du CEA sur les réacteurs graphite gaz et voulait se débarrasser du CEA. Il y avait toujours une rivalité entre les deux organismes. Et troisièmement, il y avait une poussée pro-américaine au niveau politique, en particulier avec Pompidou, Giscard. Et finalement, il y a eu donc le choix de changer de filière, mais cette filière à eau et uranium enrichi. D'abord, de faire deux réacteurs sous pression, deux réacteurs bouillants. Finalement, l'arbitrage s'est fait entre le couple d'un côté Schneider-Westinghouse, qui était pour les pressuriser, et le couple General Electric et Compagnie Générale d'Électricité en France, qui était pour les bouillants. Finalement, il y a eu arbitrage que les pressuriser. Et donc, on a lancé la construction de deux réacteurs à Fessenheim, et deux réacteurs à Bugey. Donc, c'était quand même un événement important, puisque au CEA, ça a été ressenti un peu comme une défaite assez, assez rude, puisque la filière qu'il avait portée a été abandonnée, et il y a eu d'ailleurs des réductions d'effectifs, en particulier à Marcoule, etc. Donc, ça a été une crise assez forte de ce côté-là. EDF s'est lancé donc sur la construction de ces réacteurs, et donc au rythme qui était prévu de deux par an. Arrive la guerre de Kippour en 73-74, la crise pétrolière, les pays de l'OPEP qui augmentent les prix du pétrole, la crise pétrolière de 73-74. Évidemment, alors tout le monde se dit, bon, mais il faut faire quelque chose. On verra que c'est à peu près ce qui a été dit à l'époque se reproduit aujourd'hui, dans des conditions un peu différentes, mais enfin toujours le même discours. Panique à bord, l'indépendance énergétique. Nous dépendons terriblement du pétrole, donc il faut faire quelque chose. Alors, on dépendait du pétrole, comme tout le monde d'ailleurs, surtout le plus c'était les transports, hein, puisque l'essence, etc. Mais l'EDF, pour des raisons économiques, qui avait un parc de centrales à l'époque, les centrales hydrauliques et les centrales à charbon, mais qui était passé au fioul lourd. On avait remplacé pas mal de centrales à charbon par les centrales au fioul lourd. Donc on était très dépendant du prix du pétrole. Et donc, EDF a saisi cette occasion pour dire que, bien évidemment, il fallait absolument mettre le paquet sur le nucléaire. Et comme l'ensemble du gouvernement, depuis De Gaulle, ça n'avait pas changé, était pro-nucléaire, ça a été une offensive mais colossale des milieux économiques, des milieux politiques, des milieux industriels pour pousser le nucléaire à une extrémité telle que la décision a été prise, Messmer étant ministre à l'époque, premier ministre, de construire 6 réacteurs par an. Ce qui s'est passé dans des conditions assez comiques, on pourrait dire, ce qui montre la façon dont l'État fonctionne, c'est que donc, il y avait cette offensive, d'accord, et puis Marcel Boiteux, donc, qui était le directeur général d'EDF et l'homme puissant de cette période, Sirota dit que c'est l'homme qui a coûté le plus cher à la France pendant les 20 dernières années.
C'est qui a dit ça?
Sirota, qui était le directeur général de l'énergie un peu plus tard. Et donc, Boiteux raconte que un samedi donc, de 1974, il reçoit un coup de fil du directeur général de l'énergie, Couture, corps des mines, tout ça, hein, pas Boiteux, mais Couture, qui lui dit, écoute, je pense qu'il se tutoyait, Marcel, il s'appelle Marcel Boiteux, voilà, il faudrait que tu me dises combien vous pouvez construire de réacteurs par an. Parce qu'on va faire une annonce pour renforcer le programme nucléaire, c'est très important, oui, c'est très important. Et il l'appelle à 11h du matin, le samedi matin. Et Boiteux lui dit, bon, ben écoute, oui, ça nous intéresse beaucoup, je vais consulter mes directeurs, quand est-ce qu'il te faut la réponse? Et l'autre lui dit, ben à 13h. Bon, alors Boiteux raconte qu'il appelle ces 2 ou 3, il n'en appelle pas 36. Et ils discutent, etc. Alors, ils disent, ce qui est déjà extraordinaire, le patron technique dit qu'on doit pouvoir, là ils étaient sur le rythme de 2 par an, donc ils disent, bon, 3 ou 4 par an, ça serait pas mal. Bon, ça double le programme, et puis quand même, réussir à construire 4 par an. Alors Boiteux dit, bon, donc 4 par an, ça serait bien. Bon, si je demande 6, le ministère des Finances va hurler, donc on aura 3 ou 4. Donc ça va. Il rappelle son copain Couture et lui dit 6 réacteurs. Bon, et puis voilà, bon, il attend, et le lundi, je ne sais pas qui le rappelle, Couture sans doute, en lui disant, mais la décision est prise, 6 par an. Bon, alors cette décision prise 6 par an était justifiée de quelle façon? Comme d'habitude, par le fait que j'ai les documents de l'époque, je peux les montrer à qui voudra, l'EDF et le CEA, sur ce point-là, étaient d'accord pour dire que, bien entendu, la consommation d'électricité allait augmenter de façon considérable. C'était même à l'époque, c'est la loi, entre guillemets, du doublement tous les 10 ans. Parce que pendant quelques années, des années 60, effectivement, il y avait une augmentation exponentielle. Il se trouve que c'était ridicule. Moi, j'avais déjà travaillé sur ces questions. D'ailleurs, cette histoire d'exponentielle, c'était déjà une blague. Mais en tout cas, il prenait une exponentielle. Et on était à peu près à 175 milliards de kilowattheures en 75. À peu près, c'est facile de se rappeler. Et donc, doublement tous les 10 ans, ça voulait dire qu'il fallait 1000 milliards de kilowattheures en 2000. Pour passer de 175 à 1000, il fallait construire 825. Et 825, bon, donc, 6 par an. Alors déjà, nous, c'était d'une part moi et la CFDT et les économistes de Grenoble, dont Bertrand Chateau, et y compris M. Sirota, que j'ai déjà cité, qui disait, écoutez, c'est invraisemblable vos prévisions de production d'électricité. D'abord parce que la première effort à faire par rapport à une crise énergétique, c'est des économies d'énergie. Et d'ailleurs, on avait créé en 1974 l'Agence pour les économies d'énergie. Donc, il y avait quand même une idée là-dessus. Et de dire, ben, écoutez, ça ne tient pas vos prévisions. Non. D'ailleurs, donc il fallait atteindre 1000 milliards de kilowattheures. Et la réalité, ça a été 450.
Oui, c'est pas pareil.
C'est pas
pareil.
Non. Et quand nous, on disait que c'était sûrement pas à 1000, on était loin de dire qu'à 450. On disait, arrêtez vos conneries, c'est beaucoup moins. Et moi, j'ai d'ailleurs passé ma thèse de docteur en économie de l'énergie sur le thème de la prospective. Et cette thèse portait sur le fait que toutes les prévisions qui étaient faites par d'autres que les prévisions gouvernementales étaient nettement en dessous. Et que donc, on pouvait se poser des questions sur cette prospective. Alors, le CEA où j'étais, dans les années 70, j'ai fait pas mal de choses, mais j'étais au CEA sur la prospective, a demandé que je passe ma thèse, mais à titre personnel, que ça n'engage pas le CEA, pour te dire l'ambiance. Enfin, toujours est-il, pour revenir au plan Mesmer, c'est ça, c'est-à-dire que discuter, alors, 6 par an, je crois même 7, 15 les deux premières années, puis 6 par an, ce qui, d'un côté, était énorme, de l'autre côté, était extrêmement cher. Ce programme a drainé les capacités françaises d'investissement. C'est-à-dire beaucoup de gens, dont Bertrand Chateau, considèrent que ça a empêché, ça a drainé d'utiliser cette épargne pour développer l'ensemble des questions industrielles ou des transports, par exemple, etc. Ça a drainé trop d'argent sur le nucléaire alors qu'on n'en avait pas besoin. Et ça a appauvri, en fait, l'économie française ou l'industrie française. Et on fait tout ça. Et en parallèle, parce qu'il y avait la pression du CEA, qui avait été quand même très meurtri de cette défaite, on peut dire le mot, avait obtenu, après avoir lancé un premier programme de surgénérateurs avec le Rhapsody puis Phoenix, la construction de Super Phoenix, un énorme réacteur de 1300 MW, 1200 ou 1300 MW, surgénérateur qui était un peu la récompense donnée au CEA, qui était le père des surgénérateurs. Parce que le patron du CEA, André Giraud, qui était major de Polytechnique, était très respecté par M. Giscard d'Estaing, qui était quand même l'âme damnée de ce programme pro-nucléaire américain, parce qu'il était très lié au groupe Schneider, etc. Et que M. Armand, grand français, était président de Westinghouse Europe. Donc, toute cette histoire est une histoire assez mafieuse, comme d'habitude, mais...
De copinage,
de compagnie, de famille, enfin, des tas de choses comme ça. Le baron Ampin, qui était Schneider, etc. Enfin, toujours est-il que EDF a réussi la construction de ses réacteurs, ce qui était extraordinaire. Quand on voit aujourd'hui les déboires de l'EPR, et d'ailleurs du parc actuel, et que dans les années 70, à un moment, il y avait de l'ordre probablement de 20 chantiers.
Oui, parce que quand tu en lances 6 voilà. par an, au voilà. bout de 3 ans, tu en as 18 en construction.
Voilà. C'est extraordinaire.
Okay. Et là, ils n'arrivent pas à en finir un.
Et maintenant, non. Donc, les temps ont changé. Ouais. Donc, il faut reconnaître qu'ils ont réussi le point. Mais, très vite, on s'est aperçu que, bof, quand même, il y en avait beaucoup. Et nous, on avait dit, mais attendez, 6 par an, c'est invraisemblable.
Alors, quand tu dis nous, c'est qui ?
La CFDT. La CFDT, essentiellement, parce que c'était... Moi, j'étais dans la commission... J'étais en tant que CFDT, la commission énergie du plan, où on pouvait défendre des positions opposées à cette affaire.
CFDT, alors, CFDT, CEA, toi, hein, c'est ça ?
Non, j'étais CEA, et après j'étais CFDT général, confédéral.
Ok.
Et donc, on dit, écoutez, 6 par an, c'est beaucoup. Ah oui, mais rassurez-vous, c'est 6 par an pour la France, pour les besoins français. Parce que vraiment, là, il faut répondre à la crise pétrolière de façon immédiate, remplacer les centrales à fioul par les centrales nucléaires. 6 par an pour la France. Et après, l'année suivante, ça sera, 2 années suivantes, ça sera 4 pour la France et 2 pour l'exportation. Et après, 2 pour la France et 4 pour l'exportation. Donc on maintient une production de 6 par an, mais on se fait du blé, un blé colossal en vendant des réacteurs qui, bien sûr, vont être achetés. Alors en 40 ans, on a vendu 8 réacteurs. Voilà. Donc échec double échec de cette politique, de cette stratégie Mesmer, qu'on paye aujourd'hui. Premier échec, on en a fait beaucoup trop. par rapport aux besoins français. Donc le rythme pro-nucléaire de deux parents était tout à fait raisonnable. Pour arriver à une proportion à peu près de 50% du parc alimenté par le nucléaire. Et pourquoi 50%? Parce que ça représente à peu près la base, c'est-à-dire ce qui fonctionne tout au long de l'année. Et le nucléaire est fait pour ça, il est fait pour fonctionner en base. À partir du moment où on n'a pas exporté d'électricité, donc cette électricité est arrivée sur le réseau français, on a été amené dès le début des années 80 d'exporter. Et l'exportation de nucléaire ne présente strictement aucun intérêt, parce qu'on a investi des sommes considérables, on vend le courant pas cher, parce que les voisins savent très bien qu'on est obligé de le vendre, puisqu'il faut fonctionner, et on garde le risque d'accident et les déchets. Donc l'exportation de nucléaire ne présente strictement aucun intérêt. Mais on a été obligé. En plus, pour absorber le maximum de cette production d'électricité, EDF a mis le paquet sur le chauffage électrique. Manque de bol, le chauffage électrique ne fonctionne pas, justement, en base. On n'a pas besoin toute l'année de chauffage électrique. Donc, on a créé une pointe, c'est-à-dire, curieusement, on consomme, on a besoin de chauffage quand il fait froid. C'est une découverte extraordinaire. Qui mérite le prix Nobel. Et alors, quand il fait froid, donc les gens branchent leurs radiateurs électriques. Surtout que EDF vendait, même donnait, des radiateurs électriques à résistance. Voilà, bon. Et alors, les gens branchent. Donc ça fait un appel de consommation d'électricité, tout d'un coup, zoup. Et on met tout ce qu'on a de nucléaire, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il n'est quand même pas conçu pour cette pointe là-haut, on appelle ça la pointe. Et donc à ce moment-là, on tremble chaque année, depuis l'époque, on tremble en disant est-ce qu'on va passer la pointe, est-ce qu'on va passer la pointe. Et chaque année, angoisse, angoisse. Et puis finalement, en mettant les centrales nucléaires, toutes les centrales nucléaires, quand elles sont toutes capables de marcher, plus les centrales associées, plus les centrales à cela, plus quelques importations, on passe. Mais ouf! Et comme des imbéciles, c'est chaque année que ça se reproduit et on nous explique que le nucléaire, c'est formidable.
Donc, et à quel prix? Parce que quand on est à la pointe, j'imagine que le kilowattheure est plus cher.
Ça dépend lequel, parce que si tu le fais avec le nucléaire, il n'est pas cher, mais si tu es obligé de faire marcher des diesels de je ne sais pas où, c'est cher. Donc en général, c'est plus cher. Ou si tu importes. Oui. Alors on importait d'ailleurs en Allemagne, à ce moment-là, c'était produit par du charbon, cette stratégie lancée par le programme Messmer a bousillé le système électrique français, avec ce surplus de production d'électricité nucléaire qui était finalement très cher, parce que je vous dis, les exportations ne payaient pas le remboursement de l'investissement, donc elles payaient évidemment normalement la production, mais pas les investissements. Et donc, on s'est retrouvé avec un parc surdimensionné. En 1983, la commission énergie du plan, nous passons sur le fait que Mitterrand, candidat président, avait dit qu'il allait faire plein de modifications du nucléaire. En fait, il n'a rien fait du tout, mais c'est une autre histoire. Et on s'est retrouvé dans le début des années 80, où la commission énergie du plan concluait qu'il y en avait assez, et qu'il fallait arrêter d'en construire, qu'on pouvait finir la construction en cours, mais ne pas se lancer dans de nouvelles aventures. Pas du tout. Et donc, c'est, du point de vue économique, enfin, à tout point de vue, c'était pas du tout. On a continué avec Mauroy, qui était un fanat pour nucléaire, mais ça a été continué. On a construit des réacteurs de 1300 mégawatts. Et après, des réacteurs de 1500 mégawatts, et on est arrivé à 56, 58 réacteurs, c'était vraiment le maximum de ce qu'on pouvait faire, et à ce moment-là, quand même, on s'est arrêté d'en construire. Et les derniers ont démarré en 2000, les réacteurs de Civaux, là, les quatre réacteurs de 1500 mégawatts, Civaux 1 et 2 et Chaux, Shaw et deux ont démarré en 2008, 2009, 2010, 2012, enfin sur 4 ans. Et on s'est arrêté, et après allait commencer l'aventure de l'EPR, mais c'est une autre histoire.
Petite pause musicale avec Atomic de Blondie. Sur Radio Libertaire 89.4 et vous écoutez Le Nucléaire et son Monde. Je reviens sur ce moment charnière de la discussion entre Boiteux et Couture sur combien de réacteurs il vous faut.
Alors, je comprends la stratégie de boiteux, en bon, quelque part, vendeur de tapis. Donnez-moi 6 et comme ça, tu sais qu'on t'en donne 4. Qu'est-ce que ça raconte quand même de la relation du monde politique à EDF, où en fait, le monde politique, quelque part, j'ai l'impression, ne réfléchit pas de son côté aux questions énergétiques, à combien il faudrait de réacteurs et tout ça, et donc va prendre pour argent comptant ce que lui dit EDF, sans le questionner, sans... Qu'est-ce que ça raconte de cette relation-là ?
Non, c'est beaucoup plus simple que ça, mais aussi beaucoup plus sérieux, d'une certaine façon. Tu avais un club qui s'appelait la commission Péon, production d'électricité d'origine nucléaire, qui échappait à tout contrôle démocratique, etc. C'était le CEA, EDF et le gouvernement. Et tout ça préparait les choses. Et donc c'est tout ça qui a décidé que on allait passer au réacteur à uranium ordinaire. Et c'est-à-dire que il y a des rivalités, mais tout ça reste dans un cercle fermé, qui est le corps des mines. et un morceau de corps des ponts, parce qu'à l'EDF, il y a du corps des ponts. Et donc, il y a des rivalités entre ces organismes, mais pour défendre ou promouvoir le nucléaire, ils sont tous d'accord. Et donc, l'histoire que raconte Boiteux, six réacteurs, etc., elle est probablement exacte. Donc ça c'est de façon aussi ridicule. Mais tout ce monde-là était d'accord pour dire qu'il faut faire le maximum de nucléaire. Et ils ont convaincu le politique, comme d'habitude, parce que les conseillers du politique, ben c'est des gens du corps des mines, et que M. Messmer, en plus, c'est l'armée, quoi. Messmer, c'est le militaire, il était Premier ministre par hasard, enfin, c'est le ministre de la Défense, etc. C'est un militaire, grosso modo. Et tout ça, donc, c'est une famille militaro-polytechnicienne, corps des mines, qui gouverne. Voilà. Et donc, si tu expliquais à M. Pompidou, qui n'y connaissait rien, je veux dire, que c'était formidable, que son ministre des Finances lui disait que c'était formidable, que son ministre Premier ministre lui disait que c'était formidable, que ses conseillers lui disaient que c'était formidable et que vraiment la seule solution c'était ça, il n'y a aucun problème. Ce qui est frappant, c'est ce qui s'est passé à cette époque-là et qui a eu des conséquences assez dramatiques finalement, se reproduit exactement aujourd'hui. C'est-à-dire, à l'époque, c'était l'indépendance énergétique par rapport au pétrole. Aujourd'hui, c'est déjà l'indépendance énergétique, alors qu'on pourrait discuter, là, ah oui. Et plus le climat. Alors là, pouf, et donc on fait avaler à peu près tout le monde exactement les mêmes choses qu'on a fait avaler il y a 50 ans. C'est-à-dire, indépendance énergétique, c'est bon pour le climat, donc la consommation d'électricité va augmenter à fond la caisse. Et pour la consommation d'électricité à fond la caisse, d'accord, on va faire des économies, mais vous comprenez, les économies, c'est tellement difficile, tellement compliqué, tellement... Donc c'est des connards, quoi. C'est des menteurs, mais puissants. Voilà, les menteurs puissants, c'est terrible. Les menteurs impuissants, on peut passer. Mais les menteurs puissants, c'est terrible, parce qu'ils tiennent tous les boulons et sur des discours qui sont les mêmes, mais avec quand même, depuis, une histoire d'échec du nucléaire avec l'EPR et avec la situation actuelle des réacteurs. Les fissures, les soudures, tout ça. Or, on a l'impression que là-haut, personne... ou ne sait, ou ne veut savoir, ou ne veut en tenir compte. Le chef a dit qu'il fallait faire plein de réacteurs nucléaires, qu'il fallait prolonger la vie des réacteurs nucléaires, qu'il fallait construire de nouveaux nucléaires, en particulier les EPR2, et on se dit, attendez, construire des EPR2 sur le modèle d'un EPR qui devait démarrer en 2012, qui ne démarrera pas en 2023, qui peut-être démarrera en 2024, mais on ne sait pas dans quelles conditions, et on n'est pas sûr qu'il soit vraiment sûr. Eh bien, ces petits arguments de bon sens sont inaudibles. Comme à l'époque, le discours... Il faut écouter le discours Mesmer. C'est le parallèle du discours de Macron. C'est extraordinaire. Et tout le monde, ouais, waouh. Alors, je dois dire qu'à l'époque, enfin, moi j'étais au milieu de tous ces trucs-là. À l'époque, le nucléaire avait plutôt bonne presse technique. Enfin, je veux dire, bon, c'est... après, les réacteurs graphiques, ils ont eu très vite des problèmes assez graves d'ailleurs. Oui, graves même. Mais les réacteurs américains qu'on allait reproduire marchaient bien aux États-Unis. D'ailleurs, il y avait quand même un truc assez solide. Aujourd'hui, le truc solide n'existe pas. Le truc n'est pas solide, puisque le PR est un échec et on a tous ces problèmes avec le parc actuel, et y compris la question du prolongement. Donc, avec le même type d'arguments, les mêmes affirmations de la part de crétins, enfin de ministres qui n'y connaissent absolument rien, mais qui se font un discours absolument enthousiasmant, eh bien, c'est très dramatique qu'il y ait superposition d'une part d'un gouvernement totalement aveugle et sourd à la réalité des choses, et d'autre côté, un parc nucléaire malade et donc dangereux. Et pour moi, actuellement, je considère qu'on est dans un état de crise très fort, sur lequel personne n'apporte une réponse correcte ou acceptable. Et ça, ça fait un peu... Comment on dit ? Flipper.
Alors, ça pourrait être le mot de la fin. Nouvelle pause musicale avec Radioactivity de Kraftwerk.
Thank you. acheté. Radioactivité. Strahlt Wellen zum Empfangsgerät.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et vous écoutez Le nucléaire et son monde. En fait, j'avais envie de venir avec toi sur cette question du pourquoi. Parce que c'est vrai que quand je t'écoute, je me dis c'est quand même dingue, tous ces gens ont fait des études, ils sont pas plus bêtes que d'autres. Et il y a comme quelque chose de la pensée magique. Enfin, il y a quelque chose d'autre qui se joue. Et je pense au livre de Gabrielle Hecht, l'américaine historienne, qui a fait un livre qui s'appelle Le rayonnement de la France. Est-ce que tu peux me parler justement de la thèse de cette historienne? Ou pas?
Oui. Mais non, elle a raison. Si tu veux, c'est que il faut bien voir que quand même la Seconde Guerre mondiale pour la France a été du point de vue de l'esprit de la nation un échec terrible, c'est-à-dire la défaite de 40, puis l'occupation, puis le régime de Pétain, et de Gaulle a eu s'est débrouillé de façon absolument extraordinaire pour faire en sorte que la France soit considérée comme l'un des grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Alors qu'elle avait été, au premier chef, le grand vaincu. Et donc, De Gaulle arrive en 1945. La France a quand même, certes, il y avait la résistance, et puis des troupes françaises qui ont participé, je dirais, à la fin de la guerre, mais enfin, c'était quand même pas comparable avec l'effort des autres grands belligérants. Et il s'est dit, il faut affirmer notre puissance, et immédiatement obsédé par, il faut la bombe atomique. Il faut la bombe atomique. D'abord, on avait les savants capables de la faire. Enfin, je veux dire, les scientifiques français, j'avais parlé de Joliot Curie, il n'y avait pas que lui, il y avait Kowarski, enfin, il y avait toute une équipe de scientifiques français qui est tout à fait capable de faire la bombe. Et donc, pour lui, ça a été vraiment une obsession. Et ensuite, comme il voulait non seulement avoir la bombe, mais aussi être indépendant, justement, sur la question énergétique, par rapport en particulier aux Américains, et il s'est lancé le nucléaire civil avec cette filière uranium naturel graphite gaz, qui n'avait pas besoin d'uranium enrichi, c'est-à-dire qui n'avait pas besoin des Américains. Et donc, ce mélange nucléaire civil, nucléaire militaire est venu vraiment la personnification ou l'emblème de la puissance française. Et à travers De Gaulle et ses successeurs, c'est resté, c'est-à-dire que aucun président n'a vraiment remis en cause ni le militaire ni le civil. Et même si Giscard d'Estaing a dit que de toute façon le nucléaire il l'utiliserait pas, il n'a pas arrêté les choses. Et Mitterrand a continué, enfin bon. Et donc c'est devenu un symbole qui en plus a bien servi en parallèle à la décolonisation. C'est-à-dire que l'Empire français, comme l'Empire anglais d'ailleurs, n'existait plus, mais ces empires se maintenaient grâce à la puissance nucléaire. Et c'est vrai pour le Royaume-Uni et c'est vrai pour la France.
Je comprends pas.
Ben si. La puissance impériale qui reposait beaucoup sur les colonies se maintient parce que nous faisons partie des cinq grands.
Okay. Tu veux dire, on a substitué notre puissance qu'on avait à travers l'Empire, ouais, à une puissance nucléaire.
Une puissance nucléaire qui manifeste...
Non, la grandeur de la France.
Nous sommes... Enfin, il faut entendre les discours. Nous sommes une grande puissance. Tu rêves. Nous ne sommes pas une grande puissance. Si. Pourquoi? Parce que nous sommes au Conseil de sécurité. Il y a cinq pays. Les cinq pays, il y en a un qui n'est pas justifié même par les victoires, c'est la France. Et il y a les deux qui ne sont pas très justifiés par la puissance réelle, c'est la France et le Royaume-Uni. Mais ces deux-là tiennent absolument, pour garder ça, il faut garder le nucléaire. Il y a un mélange de réalité ou d'économie ou d'industrie ou tout ça, et puis un mélange de légende, de vision de puissance. Nous sommes une grande puissance. Voilà. Et tant que cet état d'esprit d'illusion, de domination, on ne sait pas de quoi d'ailleurs, ça soutient beaucoup le nucléaire. Alors en plus, évidemment, si tu mets 60 milliards pour construire des réacteurs, c'est très bien pour les industriels qui vont faire ces réacteurs. Et tu crées évidemment de l'emploi. 66 milliards, tu peux te payer pas mal d'emplois. Et ça devient des arguments. C'est bon pour l'industrie, c'est bon pour l'emploi. Mais peut-être que, je sais pas, ouais, les usines en chocolat aussi, hein, c'est bon. Et donc, il y a une mythologie, alors qui devient de plus en plus ridicule, parce qu'à l'époque, les années programme Messmer, d'un point de vue économique, si les réacteurs marchaient bien, c'était intéressant par rapport au prix du pétrole, justement, les centrales. Et donc l'argument économique était tout à fait défendable. Alors moi, il ne fallait pas en faire trop, c'est ce que j'ai déjà dit, mais il y avait une réalité économique. Maintenant, c'est l'inverse, puisqu'on sait très bien que le nucléaire est de plus en plus cher, et que l'EPR est plus cher que le précédent, et probablement l'EPR2, ils prétendent qu'ils vont mettre moins cher, mais tout le monde a des doutes. Mais en tout cas, le nucléaire est de plus en plus cher, et les concurrents qui n'existaient pas à l'époque, c'est ça la grande différence entre les deux périodes, c'est qu'à l'époque, notre arme, c'était les économies d'énergie, l'argument fort, qui reste fort aujourd'hui. Mais on nous dit, mais oui, d'accord, même si on économise l'énergie, il faut quand même de la production. Eh bien, pour la production d'électricité, par rapport à l'électricité, un, il faut faire d'abord des économies d'électricité, parce que c'est quand même le moyen le plus bon marché et le meilleur point de vue climat. Mais pour la production, tu as l'éolien et le photovoltaïque qui baissent à fond la caisse, un facteur 10 les 10 dernières années pour le photovoltaïque, et donc le nucléaire devient beaucoup trop cher, aucun intérêt économique. Et donc on se dit, mais qui, c'est le conte d'Andersen, le roi est nu, quoi. Qui va se dire, mais attendez, le roi est nu. C'est-à-dire tout ce qu'on nous raconte est complètement fantasmagorique, erroné, et, alors que ça soit fantasmagorique, erroné et trop cher, mais dangereux. Et pour moi, le problème central actuellement, c'est qu'on est dans une zone de risque du fait du nucléaire qui est c'est la crise la plus importante depuis que le nucléaire s'est développé en France. Donc il vaudrait mieux avoir une vraie conscience de cette situation et de discuter qu'est-ce qu'on fait. Tandis que là, non, on ne discute pas qu'est-ce qu'on fait, on va faire du nucléaire.
Le roi nu décide.
Voilà. C'est un peu inquiétant pour les citoyens et les citoyennes.
C'est vrai que là, en t'écoutant, je me dis que la seule manière de sortir de cette fantasmagorie, ça va être un accident qui, d'un coup, va nous ramener à une certaine réalité de ce qu'est ce monde nucléaire.
C'est même pas sûr. Ils sont tellement forts que ils risquent de nous expliquer que oui, certes, c'est un accident, mais cet accident va nous permettre de mieux comprendre les phénomènes, et donc les réacteurs futurs seront encore plus sûrs.
Ah oui.
Je suis un peu pessimiste par moment.
D'accord. Effectivement, oui, la fantasmagorie peut prendre différentes formes. Merci beaucoup Bernard pour ce petit point d'histoire.
Le pain au chocolat était très bon, merci.
On se retrouve le mois prochain pour le nucléaire et son monde sur Radio Libertaire 89.4.
nous chanterons le temps des cerises, et guerre signal et merle moka seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moka. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant, dépendant d'oreilles. Cerises d'amour, aux robes pareilles, tombant sous la forme, en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail, qu'on cueille en rêvant. Vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les belles. Oui, faites-nous des chansons, nous les fredonnerons. Oui, faites-nous des chansons pour nous donner des ailes. Oui, faites-nous des chansons, nous nous envolerons. Si vous envolez, braves gens, aurez bien de la chance. Vous n'en aurez pas pour votre argent, pas pour votre espérance. Arrive que le chansonneur ait plus rien dans les poches, plus une miette de bonheur, plus une simple croche. Arrive que le rimailleur, là de se faire entendre ailleurs, reste dedans sa chambre, le cœur en plein décembre, et que le musicaillon bouffe le bois de ses crayons, déserté par les notes, les yeux remplis de flottes. C'est pas moi qui vous vendrai du troula, troula l'air. C'est pas moi qui vous vendrai du vent. C'est ça qu'il vous fallait, du troula, troula l'air. Si c'est ça, fallait le dire avant. Faites-nous des chansons et faites-nous les tendres. Oui, faites-nous des chansons et nous les aimerons. Oui, faites-nous des chansons qui soient douces à entendre. Oui, faites-nous des chansons et nous les rêverons. Si vous voulez rêver, braves gens, ça sera pas facile. Le rêve a pris la clé des champs, il a quitté la ville. Arrive que le chansonneur aimerait